Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et nous retrouvons tout de suite notre sélection d'été, c'est tous les jours jusqu'au 30 août. Qu'arrivera-t-il à la Russie après la fin du pétrole? Depuis les années 2000, l'économie russe a pleinement profité de la hausse des cours. La croissance a permis une amélioration globale du niveau de vie et la constitution d'une classe moyenne. Conscient de sa puissance énergétique, le pouvoir n'hésite pas à l'utiliser comme une arme diplomatique. Mais les économistes ne cessent de souligner la vulnérabilité du pays dépendant de ses hydrocarbures. Situé en Sibérie occidentale, le district autonome de Ranty-Mansisk est le cœur pétrolier du pays. On y vit bien, sans trop penser au lendemain. Reportage à Sourgout, principale ville de la région, Étienne Bouche.
La découverte de Sourgout déconcerte. La ville semble être posée au milieu de nulle part. Elle est née de la fusion de quatre cités ouvrières, ce qui explique qu'il n'y ait pas de centre. Ces dernières années, Sourgout s'est transformée. Sur d'anciens marais, on trouve désormais des immeubles modernes et des centres commerciaux avec presque toutes les grandes marques internationales. À quelques mètres d'une réplique de Big Ben, Alexei sort de la salle de sport. Il habite au Canada et il est de passage dans la ville où il a grandi. À chaque fois qu'il rend visite à sa mère, il remarque des changements.
Sourgout se distingue des autres villes russes en ce qui concerne la qualité de vie. On y vit mieux, les gens peuvent se permettre plus de choses. On a fait beaucoup pour les loisirs. Dans les années 90, il n'y avait rien, nulle part où aller ou passer du temps. Maintenant, il y a des restaurants, des clubs. Ici, la moitié de la ville travaille dans le pétrole ou dans le gaz pour Gazprom. La plupart travaillent pour Sourgout, Neftigaz et ses activités logistiques.
Sourgout Neftigaz, c'est l'empire de la région, l'employeur incontournable. L'entreprise exploite les gisements pétroliers et assure les activités liées au secteur. On dit que sans relation, il est difficile d'y entrer, mais que la paix est bonne. À Sourgout, c'est visible, on consomme. La concentration des grandes surfaces commerciales est frappante et le nombre de voitures aussi. Vladimir Samborski, lui, est fier de son Land Cruiser couleur or. Cet entrepreneur vénère Margaret Thatcher et Ringo Starr. Il connaît bien Sourgout, il y vit depuis plus de 40 ans. Il s'arrête devant un imposant édifice en construction.
Là, on se trouve devant le chantier du palais des travailleurs de Sourgout Neftigaz. C'est le plus grand bâtiment dédié à la culture appartenant à une compagnie pétrolière. Nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouverez d'équivalent. Ici, il y aura des activités pour les enfants, des cours de danse, de chant, des chorales, des artistes du monde entier s'y produiront. Et tout cela, c'est grâce à Bogdanov, le directeur de Sourgout Neftigaz. C'est le seul dirigeant d'un tel niveau à vivre à Sourgout. Les autres sont à Moscou, à Londres ou ailleurs dans le monde.
Selon le service fédéral des statistiques, en 2015, plus de 240 millions de tonnes de pétrole ont été extraites dans la région, ce qui revient à 45% du volume global. En Russie, la nécessaire diversification de l'économie est un refrain politique bien connu. Le pétrole ne sera peut-être pas éternel. À l'échelle locale, la question se pose d'autant plus. Vladimir Samborski, lui, n'est pas tellement inquiet.
Je suis convaincu que des mesures seront prises pour engager la diversification de notre économie, que des activités indépendantes des matières premières se lanceront dans des domaines où la demande durera. La production de médicaments, l'industrie textile, pour ne pas avoir à importer nos vêtements de Chine et de Turquie. On pourrait faire ça ici, à Sourgout. Pour le moment, on n'en est qu'au stade de réflexion. Hélas, on dit que les Russes font les choses vite, mais qu'ils sont lents au démarrage et qu'ils n'anticipent pas.
Dmitri Cheglov, lui, est plus sceptique. Il est rédacteur en chef de l'agence locale SIA Press. Selon lui, les effets de la crise sont pour le moment limités. La région a des réserves financières, ce qui lui permet de pallier les difficultés. Mais le journaliste regrette une vision de court terme.
Ces 15 dernières années, en Russie, on vit les yeux rivés sur deux chiffres. À combien se vend le pétrole et à combien le rouble s'échange en dollars. Jusqu'à présent, les compagnies continuent d'extraire. Elles vendent leur pétrole en dollars. Et comme c'est acceptable, on attend. En Russie, beaucoup pensent qu'il suffit de patienter, que le baril va remonter à 100 dollars et que tout s'arrangera. Personnellement, j'y crois pas beaucoup.
Si les gisements actuels s'épuisent, alors il faudra en trouver d'autres et les exploiter. Des experts soulignent qu'à cause des sanctions et de la faiblesse du prix du pétrole, la Russie n'a pas les moyens d'investir. La question de la raréfaction du pétrole occupe bien sûr les esprits, mais à Surgout, on préfère pour le moment ne pas penser à demain. Dimitri
Cheglov.
Je redoute le fait que Surgout ait un destin similaire à celui de la ville de Détroit, mais c'est un scénario très pessimiste. Quand une situation atteint un niveau critique, je crois qu'il faut prendre des mesures radicales, mener des réformes courageuses afin de changer les choses rapidement. Car si l'on se fie à son intuition, vu le contexte actuel, il semblerait que nous n'ayons pas beaucoup de temps.
Les conséquences d'un amenuisement des ressources seraient très lourdes, car elles remettraient radicalement en cause l'équilibre économique russe. Au cours des 20 prochaines années, la production de pétrole pourrait être réduite de moitié, et c'est le ministère de l'Énergie qui le dit.
C'est l'histoire d'un maire de Calabre qui met en avant depuis des années certaines valeurs, celle de la solidarité, de l'accueil des migrants, et cela bien avant la crise migratoire. Domenico Lucano, le maire de Riace, se voit d'un seul coup dans la liste de la revue Fortune comme l'une des personnes les plus influentes au monde. Il n'est là aucunement question de richesse financière, mais d'un modèle vertueux qui fonctionne encore et qui a fait le tour du monde, Mathilde Villain.
Un matin de l'été 1998, un voilier s'échoua sur les côtes de Riace. À son bord, 800 migrants, des Kurdes d'Irak et de Turquie, débarquement inédit à l'époque, qui a littéralement réveillé un village presque fantôme. Domenico Lucano, professeur des écoles, fonda alors une association pour accueillir ces migrants, pour les reloger dans des maisons abandonnées, pour les insérer dans la communauté locale, modèle qu'il a continué de défendre au cours de ses 3 mandats de maire de Riace. Domenico Lucano a encore du mal à s'expliquer aujourd'hui comment son nom a pu se retrouver dans le classement des 50 personnes les plus influentes du monde de la revue américaine Fortune, juste derrière Angela Merkel, le pape François ou Christine Lagarde. La revue américaine salue le modèle d'hospitalité réalisé par Domenico Lucano à Riace. La présence des migrants et réfugiés a revitalisé l'économie et le tissu social d'un village voué à s'éteindre lentement, précise la revue Fortune. Depuis la fin des années 90, en tout plus de 7000 réfugiés ont été accueillis dans ce bourg de 1800 habitants. 400 migrants y sont désormais installés à long terme. Ici, à Riace, le centre d'accueil des réfugiés, ce sont les maisons du centre-ville, explique simplement Domenico Lucano. Encensé par la presse du monde entier, le modèle Riace a aussi engendré une nouvelle forme de tourisme solidaire. Les visiteurs sont invités à partager la vie quotidienne des habitants de plus de 80 nationalités différentes.
Across the nation, people are going small, really small. These are so cute. Buying tiny houses.
Voilà, une tiny house, c'est une petite maison qui va vous transporter très confortablement. Une maisonnette en bois construite sur une remorque automobile. Une maison bien moins chère, forcément plus mobile et assurément mieux adaptée aux nouveaux modes de vie précaires. Reportage de Laurent Berthaud en Normandie, dans l'ouest de la France.
Bonjour. Plantée depuis 6 mois au milieu d'un verger bio, la tiny house de Nicolas et Lindsay ne passe pas inaperçue. Elle a le charme d'une roulotte et la taille d'une petite maison, 18 mètres carrés avec tout le confort.
Donc là, on est dans l'entrée qui fait un peu office de salon. En fait, aucun espace n'est perdu ici. Donc on a un petit salon où on peut être très bien à plusieurs, s'installer tranquillement avec beaucoup d'ouvertures et de fenêtres. Ensuite, on a la cuisine. C'est vraiment tout équipé comme une maison classique. Et puis ensuite, toujours dans le prolongement sans perdre d'espace, on a des placards, une douche de taille classique, 80 par 80, avec un chauffe-eau, un évier. Bon, là, on a fait le choix de faire des toilettes sèches.
Et puis donc, on va aller voir ouais, au-dessus, parce qu'il y a un étage.
Alors, bah, du coup, même l'escalier est petit.
Il faut dire que les premières marches de l'escalier, c'est un tabouret. Hein.
C'est ça, voilà. Bon, après, c'est un choix personnel, chacun
voilà.
Peut faire comme
donc, on arrive dans la chambre.
Donc, c'est une mezzanine, il faut dire qu'il y a 1m20 sous plafond. Voilà, donc, on ne peut pas non plus être... Hein. C'est ça, à genoux.
À genoux, aussi.
Exactement, et ce qui nous permet d'avoir, on a à peu près 5 mètres carrés sous plafond. On a fait le choix de mettre beaucoup de fenêtres aussi pour que ça soit quand même lumineux et pas trop tassé. On sert de tous les espaces pour aménager des choses. Après, on se rend compte que quand on vit dans un si petit espace, on fait aussi le tri de nos affaires. Donc, c'est toujours un tri permanent. Même pour l'achat, du coup, on réfléchit beaucoup plus. On ne va pas acheter un truc sur un coup de tête parce que chaque chose a sa place, quoi, ici.
Quand vous avez des amis à la maison, comment ça se passe, justement?
Bah, on ne peut pas les accueillir. Enfin, si, d'ailleurs, on a accueilli plusieurs fois des gens pour dormir. Alors, on a été à plusieurs dans la mezzanine. On a également offert notre lit là-haut pour dormir dans un matelas gonflable en bas. Et on a quand même fait un goûter de famille à 10 personnes dans la tiny.
Une mini-maison qui leur a coûté 40 000 euros, tout équipé. Nicolas a réussi à obtenir un prêt immobilier, mais pourquoi dans ce cas ne pas avoir choisi de vivre en mobilhome, en caravane ou en camping-car?
La tiny house est faite pour y vivre toute l'année, quelle que soit la condition, même en hiver. C'est pas une habitation cheap, moins chère, mal isolée. C'est vraiment une habitation en bois parfaite, dans les mêmes conditions que les vraies, mais en plus petit. La grande différence aussi, c'est l'esthétique. Ça pose moins de problèmes à un maire d'intégrer un petit chalet en bois dans sa commune plutôt que un mobilhome sur parpaing, chose comme ça. Il y a ça qui compte. C'est fait pour durer 40-50 ans. Un mobilhome, malheureusement, au bout de 15 ans, en général, les planchers sont à refaire, il y a beaucoup d'humidité. Là, ici, on n'a jamais eu de soucis particuliers, quoi. Tout est vraiment bien pensé pour durer dans le temps et pour la vie quotidienne.
Eux, ils ont l'habitude, ils ont l'habitude de le faire.
Et si la vie quotidienne vient à changer au gré du travail, la maison suit, tirée par une grosse voiture à 90 km/h. C'est à une heure de route que la maison de Nicolas et Lindsay a été construite par le premier fabricant français à avoir investi le secteur en 2013, la Tiny House, tout près du Mont-Saint-Michel. À son actif, une vingtaine de maisons et un carnet de commandes rempli jusqu'à la fin de l'année. Plusieurs corps de métier s'y sont retrouvés, un menuisier, un couvreur, un ancien paysan bio bricoleur et bien sûr, le charpentier Bruno Thierry.
Nous, on est issus du bâtiment et donc on est constructeur de maisons et on construit les tiny vraiment comme des maisons. Ce sont des mini-maisons, mais des vraies maisons, avec 10 cm d'isolation minimum dans les murs et dans la toiture. Donc oui, on les construit vraiment de manière solide. On a toute la technologie en fait pour faire ça aujourd'hui.
J'ai la cloison qui est là.
Et l'avantage des tiny house, c'est aussi qu'elles sont sur mesure.
Tu peux pas l'envoyer jusque là et puis m'en remettre une en travers, hein?
Si t'as 130, c'est bien mieux. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir deux armoires de 90 cm de large parce qu'elles conservent quand même pas mal de vêtements. Et puis d'autres qui se contentent plus facilement de vivre dans deux pantalons et deux pulls. Et ça dérange moins d'avoir une petite armoire. Donc tout ça, ça nous permet d'optimiser. Ouais, il n'y a pas une tiny pareille et c'est très intéressant aussi cet échange en fait. Arriver à satisfaire la personne qui nous a passé commande.
Vous qui êtes charpentier, c'est quoi la contrainte particulière de ce genre de maison?
Le vrai challenge d'une tiny, c'est de pouvoir ne pas dépasser le poids limite de la remorque et c'est beaucoup d'efforts.
Pas facile lorsqu'on sait que la charpente représente à elle seule 4 à 500 kilos, alors que le poids total en France et en Europe ne doit pas dépasser les 3,5 tonnes. En Europe, où les tiny house ne sont pas encore identifiés par les différentes administrations, rappelle Michael Deloge, co-gérant de la tiny house.
En fait, une tiny house, ça n'existe pas en France ni en Europe. Il n'y a pas de carte grise tiny. Donc on a rencontré les services des mines et tout ça. Et donc on joue sur la loi et on prend une remorque plateau, apte à porter une charge. Cette charge doit être solidement fixée et très facilement défixable. Donc si demain nos clients veulent enlever la tiny parce qu'ils ont l'autorisation de poser la tiny sur le sol, et ben ils prennent une clé de 19, ils enlèvent 16 écrous, ils prennent un petit télescopique qui porte 2,5 tonnes, 3 tonnes, ils l'enlèvent et ils la mettent sur le côté.
Sur un terrain non constructible, dès lors qu'elle est sur sa remorque, il est possible de stationner sa tiny house 3 mois maximum avant de devoir bouger. Mais en pratique, les maires des communes peuvent parfois se montrer plus conciliants. Hush, little baby, it's only rock and roll,
and rock and roll is good for your soul. Du rock and roll et de la pop avec vous, Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Catherine.
Alors direction la Suède aujourd'hui et votre choix se porte sur une nouveauté pop qui rappelle un peu la Cold Wave des années 80.
On les présente comme la nouvelle sensation de la scène pop suédoise, mais le moins qu'on puisse dire c'est que le groupe Vita Bergen est plutôt avare en éléments biographiques. à une époque où l'on sait tout sur tout le monde, où le moindre petit groupe se sert d'Internet comme d'une formidable caisse de résonance, où le storytelling règne souvent en maître, et bien Vita Bergen s'en tient au strict nécessaire, ses chansons et sa fiche d'identité. Un groupe de 7 musiciens formés à Göteborg en 2010 par William Hellström et Robert Jalinder. Pour le reste, tout est dans leur deuxième album, Disconnection, du rock dense et fiévreux avec un zeste de sonorité emprunté aux années 80.
Cold Wave fiévreuse de Vita Bergen. Guillaume Munier était à la réalisation. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans un instant, un peu de patience, les infos.